Johnson.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. La CPI, la Cour pénale internationale, annonce le lancement d'un programme d'assistance d'un peu plus d'un million de dollars pour les victimes centrafricaines des miliciens de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. Information confirmée ce mercredi par le chef de bureau de la CPI en Centrafrique lors d'une conférence de presse à Bangui. Les juges n'ont pas ignoré les crimes graves commis en Centrafrique entre 2002 et 2003, a souligné Mike Cole. Ce programme d'assistance en RCA, qui fait partie du FPV, le Fonds au profit des victimes, un organe de la CPI, avait été initialement annoncé en 2013. Mais son lancement avait été suspendu et finalement annulé en raison de la situation sécuritaire dans le pays, selon un communiqué du FPV qui indique aujourd'hui vouloir relancer le programme. La CPI a ordonné hier, rappelons-le, la libération provisoire de l'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba après l'avoir acquitté en appel à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en RCA. Entre octobre 2002 et mars 2003, appelé à la rescousse par le président centrafricain Ange-Félix Patassé pour contrecarrer la tentative de coup d'État du général et futur président de la RCA, François Bozizé, les miliciens du MLC, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, avaient commis pendant plus d'un mois de terribles exactions à Bangui, la capitale centrafricaine. Maintenant que la CPI a ordonné la libération provisoire de Jean-Pierre Bemba, quel sera son avenir politique en RDC? Eddy Sango a posé la question au secrétaire général adjoint de son parti, le mouvement pour la libération du Congo, Fidel Babala.
C'est d'abord une réaction de joie et de soulagement. Après 10 ans de procédure, finalement, notre président recouvre la liberté de son action et de ses mouvements. Je crois que c'est tout ce que nous avions espéré.
Quel sera l'avenir politique de M. Jean-Pierre Bemba maintenant?
Je ne pourrais pas parler en ces lieux et places. Il vient de recouvrer la totalité de ses mauvaises actions, de sa liberté. Je crois qu'il s'exprimera personnellement sur le sujet quand il choisira le moment opportun. Je pense qu'au niveau de notre parti, l'attente est de voir ce candidat naturel du MLC se mettre à l'ordre des batailles pour amener le parti ainsi que le pays aux élections. Nous souhaiterions vivement qu'il puisse reprendre ses activités le plus vite possible. Mais bon, la décision lui appartiendra. Il vient de sortir après 10 ans. Je crois que la décence et la logique voudraient qu'on puisse lui laisser le temps de se reconstituer et de retrouver l'intimité de sa famille.
Justement, il n'aura peut-être que 3 semaines avant de prendre la décision. Pensez-vous que c'est suffisant?
Il a le temps. Le temps que le parti puisse se mettre aussi en ordre de bataille en organisant son congrès. Je crois que le temps, c'est 2 mois. C'est jusqu'au 17 août qu'on doit pouvoir déposer des candidatures au niveau de la présidentielle.
Ne pensez-vous pas qu'il y ait quelques obstacles juridiques ou politiques à une éventuelle candidature de M. Jean-Pierre Bemba?
Je n'en vois pas dans la mesure où il a été acquitté, donc on avait de tout soupçon. Nous sommes un pays qui tend vers l'état des droits, donc nous devons respecter nos propres textes. Je ne pense pas qu'il y aura un obstacle.
Bien qu'en prison, M. Jean-Pierre Bemba ait été beaucoup consulté, et ceux qui le consultent, et même lui-même, parle d'une candidature unique, commune de l'opposition. Et pensez-vous qu'il serait prêt à soutenir un autre?
Il était le premier à pouvoir défendre cette idée. Vous vous rappelez, il a appelé par le biais d'un courrier à l'unité d'action de l'opposition. Une candidature commune serait la suite logique de ces actions qu'on mènerait ensemble au niveau de l'opposition.
Mais si Jean-Pierre Bemba est sorti de Kinshasa après des violences affrontées entre sa garde et celle du président Joseph Kabila, et juste après il y a eu une ouverture d'un dossier judiciaire, ne craignez-vous pas que ces dossiers puissent être rouverts en l'encontre de votre président?
Non, je ne pense pas. Je crois que l'intérêt des uns et des autres, c'est de pouvoir conduire le pays dans la paix, l'apaisement vers des élections.
Et que reste-t-il aujourd'hui de la force politique de M. Jean-Pierre Bemba et du MLC?
Il y a eu des départs, certes, mais des départs qui n'ont pas atteint la substance, même l'enracinement même du MLC.
Germain Katanga a été libéré à la CPI. Une fois à Kinshasa, il a été arrêté. N'avez-vous pas crainte que cela arrive à votre leader?
Le cas de Jean-Pierre Bemba n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. C'est un cas qui concerne la République centrafricaine.
Fidel Babala, secrétaire général adjoint du mouvement pour la libération du Congo. Ebola en RDC maintenant, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé mardi à renforcer la vigilance à propos de la fièvre hémorragique dans le pays. Et ce, malgré la stabilisation constatée dans le nord-ouest concernant l'épidémie d'Ebola en cours. Un appel lancé à la fin de sa visite de 3 jours en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, l'armée malienne a annoncé mardi avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays, région particulièrement touchée par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Lors de cet accrochage à Karakindé, dans la région de Mopti, les militaires maliens ont récupéré de l'armement, des engins explosifs et d'autres matériels de guerre, selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiena Koulibaly. Et puis au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu mardi jusqu'au 14 juin pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. Deux accusés, dont l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré, se sont retrouvés sans conseil après le départ de leurs avocats. Et face à la volonté du président du tribunal militaire, Cédoué Draogo, d'entamer malgré tout le procès dans son fond, les autres avocats ont souhaité un renvoi. Le temps de trouver de nouveaux défenseurs. En Guinée-Bissau, la fonction publique en grève depuis mardi. Résultat, certains patients ont déjà commencé à en donner. L'hôpital national Simão Mendes, le principal centre hospitalier du pays. Notre correspondant à Bissau, Noah Mankali, fait le point.
L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau, UNTG, a entamé ce mardi la deuxième vague de grève de 3 jours dans le but d'obliger le gouvernement d'Aristide Gomis à se conformer au réajustement des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne. Une grève générale convoquée par le central syndical n'a pas atteint les secteurs du transport et du commerce, aussi de l'éducation nationale. On précise que ce début de grève de 3 jours a commencé à se faire sentir négativement au niveau du principal centre hospitalier du pays. On rappelle que l'une des raisons de la grève serait la non-conformité avec certains points de revendication du central syndical, à savoir la question de l'augmentation des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne, mais aussi la mise en œuvre des nouvelles grilles salariales, entre autres. Nouamé Nkeli Bissau, VOA Afrique.
Tanzanie, l'organisation Reporters sans frontières demande aux autorités tanzaniennes d'abroger leur loi sur le contenu en ligne. Plus de détails avec Marie Benson.
La mesure mise en œuvre depuis lundi par l'autorité tanzanienne de régulation de la communication affecte en particulier Jamii Forum, l'un des sites les plus populaires dans le pays et qui compte plus d'un demi-million d'abonnés sur Twitter. Le gouvernement tanzanien a suspendu cette plateforme d'information, notamment parce qu'elle refuse de divulguer l'identité de ses sources aux autorités. Par ailleurs, Jamii Forum doit s'acquitter d'une licence coûtant $900 par an pour fonctionner. Ceux qui ne suivront pas cette règle risqueront la prison et une lourde amende. Selon le responsable du bureau Afrique de RSF, le gouvernement tanzanien ne veut pas que les médias publient les voix critiques sur leur site. Depuis l'arrivée au pouvoir du président John Magufuli, des journaux critiques ont été fermés, accusés de propos hostiles au gouvernement.
Actualité américaine maintenant, des sénateurs démocrates ont dénoncé mardi la cruauté des séparations d'enfants et de parents migrants en présentant une loi visant à stopper cette mesure renforcée récemment par l'administration Trump pour décourager l'immigration clandestine. Le point avec Bagassi Koura.
Appelons les choses par leur nom, les États-Unis sont en train de violer les droits de l'homme, a acclamé la sénatrice Kamala Harris lors d'une conférence de presse pour présenter cette loi introduite par des sénateurs de la minorité démocrate. Cette pratique était déjà possible sous le président démocrate Barack Obama, mais rarement appliquée. L'administration Trump l'a rendue systématique. Depuis octobre, plusieurs centaines d'enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière, selon les Nations Unies. Une mesure de tolérance zéro légale, selon la Maison-Blanche, qui, depuis début mai, la revendique ouvertement afin de décourager l'immigration illégale. En moyenne, 47 enfants ont été retirés de leurs parents chaque jour pendant une période de 2 semaines en mai, a précisé la sénatrice démocrate Dianne Feinstein en s'appuyant sur des données fournies par la police des frontières à la commission sénatoriale de la justice. Pour l'instant, aucun républicain n'a prévu de soutenir cette proposition de loi qui devrait donc avoir du mal à prospérer. Cet épineux débat agite jusqu'au cœur même de la majorité républicaine qui peine ces jours-ci à trouver un consensus sur une proposition de loi qui réconcilierait modérés et partisans d'une ligne dure.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.